Je remercie la librairie Mola de nous avoir accueillis, Hervé et moi, et surtout d'avoir permis à Hervé Castanet de présenter son livre. Bon, présenter Hervé, c'est un peu compliqué, tant son éventail est large, puisqu'il s'intéresse, bien sûr, il est avant tout psychanalyste, mais c'est aussi quelqu'un qui a écrit, c'est toujours du point de vue de la psychanalyse d'ailleurs, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, puisque c'est le 23e, hein. Bon, et qui a écrit sur l'art, sur certains écrivains, en particulier sur Genet, sur Pierre Klossowski. Quelqu'un qui a écrit véritablement des livres qui font autorité sur la question de la perversion. C'est quelqu'un qui anime une revue, ça je peux le dire, mais il s'appelle Il Particolare, c'est une très belle revue où écrivent les plus grands écrivains français et étrangers, les poètes. À propos de poésie, il a écrit un livre en collaboration avec Christian Prigent. Enfin bref, son éventail est extrêmement large. Et là, nous avons un livre tout à fait clair, édité. C'est un livre qui, dans le cadre du chanfreudien, est édité chez Navarin et qui s'appelle donc, comme vous le savez, Homo-analysant, des homosexuels en analyse. On va aller directement à la question. Déjà, je vais te poser une question concernant donc le titre de ce livre. Pourquoi homo-analysant, pourquoi ce mot valise, et pourquoi font l'article indéfini sur des homosexuels en analyse. Je suppose que ce n'est pas par hasard que tu as choisi ce titre. Alors peux-tu me donner les raisons donc, qui t'ont poussé à choisir un tel titre?
Mais d'abord, comme Alain vient de le faire, je remercie la librairie Mola et les collègues de l'ACF qui ont mis en place cette réunion. Mmh. C'est pas la première fois que je viens à Bordeaux et dans cette salle, et toujours avec un grand plaisir. Alors, juste une remarque, elle est anecdotique, mais pas tout à fait pour moi, c'est que je ne fais jamais de débat sur aucun de mes livres. C'est un choix que j'ai fait. Jamais. Sauf pour celui-là. Il y a une raison précise, c'est que le titre, vous allez le voir, le titre « Homo-analysant » est un titre de Jacques-Alain Miller, qui a voulu ce livre et qui m'a proposé de l'écrire. Donc il a un statut particulier par rapport à l'école, par rapport à son adresse et par rapport à son enjeu. Donc « homo-analysant », c'est un mot valise, c'est-à-dire les homosexuels en analyse, d'où le sous-titre, non pas les homosexuels, ce qui serait constituer une classe, et ça serait vraiment une très mauvaise orientation. C'est-à-dire que nous ferions à nouveau ce que les docteurs ont fait, c'est-à-dire classer et mettre les homosexuels dans une catégorie. Justement, des homosexuels, c'est les prendre un par un. Et tout à l'heure, lorsque nous en discutions, Alain me demandait si ce « D » indéfini permettait de construire ou pas une série. Eh bien, je crois que ce « D » doit garder cette dimension d'indéfini et ne pas constituer une série. Ce qui fait ou ce qui peut faire série, c'est ce qui oriente le livre et ses cas, c'est-à-dire une clinique du singulier et du cas par cas.
Et quel est l'enjeu alors de ce bouquin?
Il est à la fois clinique et politique.
C'est épistémique aussi quand même.
Épistémique, oui. Je l'inclus ça dans clinique. Pourquoi politique? Et pour en avoir discuté avec Jacques-Alain Miller, c'était dans cette optique-là que d'abord il fallait le construire. C'est à propos du mariage pour tous. Chacun peut avoir ses positions en tant que citoyen. chacun peut, en fonction de ses orientations, y compris de croyances, être pour ou être contre. Et ça, ça a tout à fait sa légitimité. Nous ne sommes pas là pour agiter un petit drapeau et dire voilà comme vous devez penser, vous devez absolument être pour ou vous devez absolument être contre. Il se trouve qu'à titre personnel, strictement à titre personnel, je suis favorable au mariage pour tous, je suis favorable à l'adoption et aux nouvelles formes de filiation. Ça n'engage que le citoyen. Ça n'aurait pas du tout occasionné la lecture d'un livre qui aurait été au fond un plaidoyer pour une position politique. Il s'est passé quelque chose de particulier. On a vu des manifestations, on a même fait le coup de poing. On a entendu des propos comme quoi la culture et même pire, la civilisation était en danger. Vous allez me dire, mais après tout, pourquoi vous vous occupez du brouhaha du monde? Votre cabinet est bien sonorisé. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère? Eh bien, ça tient à la façon dont l'opposition au mariage pour tous, avec la phrase de dénégation, on n'est pas contre les homosexuels, mais on n'est pas d'accord sur ceci et cela, eh bien, on trouvait une légitimation qui a pu être surprenante. Au fond, on pouvait penser que les religieux, les représentants des grandes religions monothéistes, mais je vais surtout citer la religion catholique, on aurait pu croire que c'était au nom du dogme qu'on s'opposait au mariage pour tous. Le dogme dit que, avec la fameuse phrase de la Genèse, et Dieu les créa hommes et femmes, en plus, il y a toute une théorie absolument formidable, construite, élaborée, qu'on appelle celle, la théorie de la loi naturelle, donc saint Thomas d'Aquin est le représentant inégalé. On pourrait dire, voilà, le dogme dit cela, lisez saint Thomas, laissez-nous tranquilles, nous sommes contre. Mais ce n'est pas du tout, en France tout au moins, le type de discours qui a été promu, ce ne sont pas les arguments utilisés. Les arguments utilisés sont différents. Ça a été un appel à la clinique, et notamment, pas exclusivement, mais enfin notamment à la psychanalyse, avec cette phrase de bien entendu, mais vous savez bien que les psychanalystes le disent, qu'il faut un papa et une maman pour chaque enfant. Donc vous voyez, on ne vous parle pas au nom du dogme, on ne vous parle pas au nom de la loi naturelle. Quand même, saint Thomas d'Aquin, c'est peut-être difficile à en faire slogan dans les rues pour faire le coup de poing, mais les experts, ceux qui reçoivent les enfants, etc., vous le disent, Lacan lui-même, avec la promotion du nom du père, l'a affirmé, sans le père et la mère, tout s'écroule. Je force à peine le trait. Ça s'est dit comme ça. Et au fond, l'enjeu, c'était de savoir qu'est-ce que nous faisions avec ces formulations. Est-ce que nous disions, oh, mais qu'ils disent ce qu'ils veulent de Lacan et de Freud, c'est pas notre affaire? Ou bien on essayait de montrer que les analystes, puisqu'ils étaient interpellés de cette façon, avaient leur mot à dire. Et leur mot à dire, c'est que ces phrases que j'ai résumées, au fond, le déluge, si le père n'a plus la place qu'il devait avoir, même en le promouvant comme nom du père, eh bien cette thèse, qui apparaissait un pur produit de la psychanalyse, c'était pas tout à fait l'orientation de Freud et de Lacan. Donc, je voulais juste vous lire une petite phrase qui me semblait importante. C'est Bernard-Henri Lévy qui a été impeccable dans cette affaire et Jacques-Alain Miller qui l'écrit dans une préface commune et à propos de l'histoire du mariage pour tous. Je cite « Vilipendé à sa naissance par tous les traditionalismes, la psychanalyse se voit aujourd'hui intégrée au processus de validation des croyances, insistante et intolérable imposture qui travestit l'expérience analytique et lui est nuisible. » Vous voyez que des phrases sont suffisamment fermes pour qu'on se dise que si on les prend au sérieux, si on en tire quelques conséquences, on peut écrire un livre pour dire en quoi, effectivement, ces utilisations de la psychanalyse sont des utilisations nuisibles, ce qui ne signifie pas que nous attaquons les croyances des uns et des autres. En tout cas, nous pouvons, de notre place, contester et attaquer, ça pourrait être une action politique, une action lacanienne, contre des formulations qui veulent faire croire qu'au fond, nous sommes les alliés objectifs de la réaction. Bon.
Alors, autre question, quel est l'enjeu clinique? Tu parles d'une clinique pragmatique, partant du fait que les homosexuels, tels qu'ils parlent en analyse, ne parlent peut-être plus comme avant. D'abord, on les reçoit, on les taxe plus de perversion, comme ça a déjà été fait par le passé. Et en plus, finalement, l'homosexualité, les homosexuels, au fond, ne sont plus, ça n'est plus, ça ne se présente plus comme il se présentait autrefois. Tu dis que l'homosexualité de papa est révolue, etc. Et tu prônes plutôt une clinique qui tient compte de ce changement. La psychanalyse également a changé, mais tu prônes une clinique que tu qualifies de pragmatique. Est-ce que tu peux en dire quelques mots?
Alors, je ne dis pas que l'homosexualité de papa, c'est-à-dire...
C'est le terme
que j'emploie, mais je ne dis pas que l'homosexualité de papa, c'est-à-dire l'homosexualité coupable, honteuse, ce n'est pas possible, etc., aurait disparu. Je crois que ça serait une formule inadéquate. On peut très bien objecter sans exemple... pour le prouver. En plus, nous sommes dans des lieux privilégiés, car la dimension à la fois clinique et politique de l'affaire, c'est qu'il suffit de lire chaque jour les journaux pour voir que ces questions dont nous débattons librement avec des thèses précises ne sont pas forcément un odeur. C'est le cas de le dire de sainteté dans certains pays. Le président de l'Ouganda, depuis que les experts lui ont expliqué que l'homosexualité n'est pas génétique, a décidé non plus qu'on les soigne, mais qu'on les mette en prison. Et même l'Inde,
aussi.
L'Inde démocratique par rapport au continent indien et asiatique, eh bien, essaye de tirer l'homosexualité du côté de la pénalisation. D'autant plus l'homosexualité masculine, qui est la moins sympathique, la plus visible, et qui, généralement, est celle qui attente le plus aux principes moraux pour une pensée du style « gardons tout cela de côté bon. ». Mais donc l'homosexualité de papa, faut bien voir qu'elle n'a pas disparu. Là, je parle des sujets
que tu as vu, hein.
qui sont venus me voir au cabinet et aucun, donc c'est limité comme expérience, mais je parle de ça, aucun n'est venu se plaindre de son homosexualité ou de vouloir en être guéri ou de vouloir être gêné par rapport aux parents, aux enfants, aux amis, etc. C'est pas du tout ça la demande. Et donc, ce qui est intéressant, c'est l'aspect clinique, Alain, c'est de quelle demande formule-t-il lorsqu'il s'adresse à l'analyste? Alors, on pourrait dire, ils ne demandent pas à être débarrassés de leur homosexualité, parce que ce qui se dit quand même souvent, c'est les psychanalystes sont là pour mettre en conformité. Les bons docteurs veulent que ça soit droit. Quand je dis le bon docteur, je m'inclus dedans, c'est docteur au sens du savoir. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, puisqu'il y a saint Thomas d'Aquin, c'est la référence au docteur angélique, qui là, quand même, surplombe l'affaire. Donc, au fond, c'est de se demander ensuite, qu'est-ce qu'il demande, et est-ce que nous sommes prêts, c'est pas si simple que ça, quand même, est-ce que nous sommes prêts à entendre cette demande sans justement de faire de l'homosexualité une classe psychopathologique revue à la sauce analytique. Ça, je crois que tu parlais d'un point de vue épistémique, c'est radical. Le terme psychopathologie psychanalytique qu'on voit fleurir ici ou là, y compris dans les universités soi-disant encore orientées par Freud et Lacan, je pense, pas très loin, à Toulouse, effectivement, en construisant ce syntagme-là, c'est la psychanalyse elle-même qui passe à la trappe. Il n'y a pas de psychopathologie psychanalytique. Il y a une psychopathologie psychiatrique, et à juste titre, qui a ses admirables lettres de noblesse. Il y a une psychopathologie de la psychologie clinique, mais enfin, psychopathologie clinique ne m'a jamais intéressé.
C'est-à-dire que les homosexuels ne constituent pas,
pas une classe, ni un
ensemble.
Ni un ensemble, et donc ça nous oblige à penser autrement avec les concepts qui nous permettent de les aborder. Donc ça paraît déterminant d'insister sur ce point, presque un peu polémique, parce qu'on finit par être au fond envahi de syntagmes, psychopathologie psychanalytique, et ça passe. Eh bien, je crois que ça ne passe pas. Il faut dire que la psychanalyse ne peut pas construire des classes de ce... de ce type. Et donc, quelles demandes, et si nous acceptons de les écouter, si nous acceptons de prendre ça au sérieux, même s'ils ne sont pas venus se plaindre de leur homosexualité, mais des affres de leur désir, des difficultés de l'amour et des impasses de leur vie subjective, comme chacun d'entre nous, eh bien, quels sont les outils chez Freud et chez Lacan, et grâce à la lecture de Jacques-Alain Miller, on peut s'y repérer, nous sommes obligés de mobiliser pour ne pas être trop sourds à ce qui se dit.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi, il faut que les analystes acceptent de se laisser enseigner par les patients en analyse, par les homo-analysants. Tu parles des leçons cliniques qu'ils nous apportent.
C'est d'autant plus important la référence à leçons cliniques, car il y aurait presque un repérage assez simple qui consisterait à se dire... Ah oui, ils sont homosexuels, comme si en quelque sorte ça expliquait leurs difficultés subjectives.
Oui, on se situerait comme tolérant.
Tolérant. Mais en se disant quand même que leur homosexualité explique beaucoup de leurs difficultés. Je pense que c'est une thèse fausse, et même d'une certaine façon, avec Lacan et même Freud, relativement scandaleuse. C'est imaginer que le choix de jouissance... homosexuels, exclusivement les hommes qui s'aiment entre eux, ça constituerait ce qui expliquerait qu'ils sont dans l'état où ils sont. Ce qui serait quand même une façon que nous aurions, gentille et tolérante, comme dit Alain, de penser les cas, mais oui, bien sûr, ils sont homosexuels.
On les comprend, etc.
Voilà. C'est-à-dire la version humaniste de l'approche. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas ça chez Lacan, et pas simplement, comme ça se colportait, à la fin de son enseignement. Comme beaucoup d'entre vous, j'avais lu le séminaire 6, dans la version de l'école freudienne de Paris, c'est-à-dire mal photocopié, avec les annotations de Lacan, qu'on n'arrivait pas très bien à décrypter. Il n'y avait pas l'époque où il y avait les zooms permettant d'augmenter ça, donc il fallait mettre des lunettes. On était plus jeunes, on avait de meilleurs yeux, mais enfin, c'était quand même très compliqué de s'orienter dans le séminaire lui-même, 3 tomes. Je me rappelle, j'avais lu ça il y a 30 ans, moi. Et aujourd'hui, avec l'édition de Jacques-Alain Miller, on s'aperçoit, ça saute vraiment aux yeux, c'est le cas de le dire, que le Lacan structuraliste, le Lacan qui promeut le nom du père à la place du père de la réalité, ou la clinique d'alors est omnubilée par sa présence physique, ou sa présence ou son absence physique, et bien que malgré tout, ce n'est pas le tout de la façon dont Lacan aborde le désir, puisque dans le séminaire 6, c'est-à-dire au milieu des années 50, vous avez une thèse, c'est que le désir s'oppose à toutes les formes de formatage, et d'une certaine façon, c'est presque une thèse extrême, Jacques-Alain a mis cela en exergue avec, de façon incroyable, c'est que le désir s'oppose à l'Œdipe.
C'est ça, donc alors, au fond, l'Œdipe fonctionne comme chez risque, enfin... La question de l'Œdipe fonctionne maintenant. Si vraiment l'analyste analysait au nom de l'Œdipe, il analyserait au nom d'un savoir, un pseudo-savoir acquis et obturant. D'une certaine manière, je pousse le trait.
Mais je crois que c'est tout à fait cela, d'autant plus, et il y a une remarque de ce type chez Lacan dans le séminaire Les formations de l'inconscient que Jacques-Alain relève. C'est-à-dire qu'au fond, si la perversion et l'homosexualité sont alors là deux termes quasiment synonymes, se constituent comme un arrêt dans le développement en 3 temps de l'Œdipe, puisque le 3e temps de l'assomption signifiante de la castration et de la loi du père n'opère pas, effectivement, on en arrive même à l'idée que c'est un arrêt dans une construction psychique et même... que l'homosexualité est guérissable par définition. Encore un petit effort pour conclure l'Œdipe et votre homosexualité passera à la trappe. Si vous vous enforcez le trait.
Et ce n'est pas du tout ce que prétendait Freud.
Ce n'est pas ce que prétendait Freud, parce que Freud est quand même la découverte des 3 essais sur la théorie sexuelle, première version 1905 et ensuite jusqu'à dans les années 20 les reprises, c'est quand même que tout ça va dans tous les sens. Il en passe par la pulsion et il ne trouve pas la pulsion génitale qui viendrait enfin centrer tout ça. Du calme, c'est fini les enfantillages, vous voilà adulte. ce que la psychanalyse française avait repris sous la forme de l'amour, de l'amour presque génitalisé et oblatif, eh bien, on s'aperçoit que l'Œdipe, c'est une fiction construite par Freud pour essayer, tant bien que mal, de faire tenir ce qui se présente sous la forme hétérogène et qui objecte à toute formalisation. Et vous avez des phrases, bon, je ne vais pas les citer maintenant, mais chez Freud lui-même, où il explique qu'au fond, pour des raisons esthétiques, nous voudrions que, il désigne là alors l'homosexualité ou la perversion, et il dit, eh bien non, la perversion, c'est normal. Et vous avez cette phrase qui est reprise par Lacan dans son séminaire sur l'objet de la psychanalyse à propos de l'abbé de Choisy, lorsqu'il dit, la fameuse référence de Lacan pour cet homme qui se déguisait en femme à la cour de Louis XIV, et lorsque Lacan disait, ben oui, la perversion, c'est normal. Non pas les pratiques perverses, non pas, mais le principe même que le désir, au fond, d'une façon certaine, est pervers en ceci qu'il s'oppose à tous les formatages et à tous les conformismes. Et c'est pour ça que Jacques-Alain Miller a titré le dernier chapitre du séminaire 6, au fond, eh bien c'est un éloge, une valorisation de la perversion, non pas au sens des pratiques, mais au sens de la caractéristique propre du désir. Donc l'Œdipe, c'est une fiction et qui, d'une certaine façon, est une soumission aux signifiants patriarcaux. C'est dans le texte même de Lacan. C'est pas un rajout de circonstances.
Alors maintenant, on va en venir à ce qui fait la matière aussi du livre. Ce livre est un enjeu. Ce livre est un pari, je crois. Un pari sur une clinique qui se fonde de ce qu'on peut entendre chez certains sujets homosexuels, dès lors qu'ils demandent une analyse, qui s'adressent à un analyste, qui sont plongés dans le bain de langage, qui sont aux prises, comme tu disais, aux affres du désir. Mais c'est quand même une clinique qui conserve une certaine singularité, à mon avis. Et il me semble que, par exemple, tu présentes 5 cas de névrose, bon, parce que quand même, bon, tu fais appel quand même à une vieille classification, que celle de la névrose, un cas de perversion, de véritable perversion. Alors, ce qui est intéressant, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas tout à fait lu le bouquin, livre, c'est-à-dire qu'il distingue plusieurs cas, et chaque cas, au fond, est caractérisé par un trait. Par exemple, Max, c'est du fétiche à l'événement de corps. Renaud, c'est ni vivant ni mort, le point éternel. Théo, c'est la quête d'un double idéal. Patrice, c'est le fils logicien. Christian, c'est sortir du silence. Sylvestre, c'est objecter à la norme mâle. Et Lucas, donc, que tu... quand même... Tu ne le classes pas, mais enfin, en tout cas, dans la mesure où précisément sa demande, c'est plutôt celle de diviser l'analyste, Lucas, lui, c'est extorquer le oui. Hein. Bon. Alors, ce qui me frappe comme ça, à la lecture de tous ces cas, c'est qu'en effet, tu mets l'accent sur le primat de la jouissance chez ces sujets. Ces sujets, au fond, apparemment, seraient comme presque poissons dans l'eau dans leur mode de jouissance, apparemment, mais en fait, ils ne le sont pas, dès lors qu'il y a toujours quelque chose de raté. Et au fond, d'une certaine façon, tous ces traits dénotent du fétichisme, la mortification, la quête du double, etc., le silence, le... Tout ça, finalement, m'est apparu, moi, comme une sorte de mode de défense. Donc, tu ne te bornes pas à un constat. Il me semble bien que là, il y a quelque chose d'autre qui revêt la dimension du pari. Est-ce que tu pourrais dire un peu quelque chose là-dessus? Alors, autre question, c'est pourquoi... Alors là, il me semble que là aussi, c'est un parti pris sans doute de ta part... Il n'y a aucune référence, pratiquement, ou très peu, aux formations de l'inconscient. si ce n'est à cette formation mixte qu'est le fantasme. Là, tu mets l'accent beaucoup sur le fantasme. Alors pourquoi ? Je suppose que quand même ces gens ont fait une analyse, il y a une demande, etc. Et il me semble, pourquoi as-tu mis plutôt l'accent là-dessus ? Est-ce pour la nécessité d'une démonstration ? Ou bien est-ce qu'il y a-t-il là quelque chose d'un peu spécifique quand même à ces sujets ?
Alors là, première question, c'est-à-dire la défense. Évidemment, il ne s'agissait pas simplement de faire un constat, mais de se poser la question toute simple, c'est que les fictions qu'ils construisaient et qui soutenaient leurs désirs étaient, dans chaque cas, et de façon à préciser, une modalité de la défense. C'est une défense... Mais ça ne leur est pas propre, là. Il faudrait voir ensuite en quoi elle est propre, la demande. Enfin, il faudrait particulariser ce que je vais dire. Mais leur défense était une défense contre la rencontre. Si vous voulez, c'est une défense au nom du nécessaire contre la contingence. Que rien n'advienne, que rien ne bouge.
Oui, ça, c'est un leitmotiv, de la plupart de ces sujets.
Voilà. Et celui qui le démontre le mieux, me semble-t-il, c'est le cas Renaud. J'ai toujours du mal à les repérer sous les noms de fiction, puisque je les ai dans ma tête avec leur patronyme. Donc, c'est le cas Renaud, ni vivant, ni mort éternel, puisqu'il va même jusqu'à cet extrême. Que dans la relation sexuelle avec les jeunes hommes qu'il rencontre, alors même qu'il a été marié pendant très longtemps, etc., il va même jusque, on va le dire très simplement, jusqu'à ne plus bander, parce que ça serait la marque qu'il y a ensuite une coupure, une césure, un arrêt. Donc c'est vraiment l'éternité qui ne doit plus être, en quelque sorte, à la merci de la contingence du phallus lui-même, puisque Lacan, dans Séminaire encore, par exemple, articule contingence et phallus. Donc, vraiment, il y a cette défense que rien ne se passe. Évidemment, rien ne marche, puisqu'il ne manque pas de rencontrer un réel, et c'est de voir qu'est-ce qu'ils en font. Alors, ce qu'ils en font, c'est que d'abord, ils viennent voir l'analyste. C'est-à-dire qu'ils admettent que leur monde ne va pas se pétrifier au point même où, en quelque sorte, ils arriveraient à vaincre la contingence par une nécessité poussée jusqu'à la limite extrême.
Dès lors qu'ils franchissent la porte de l'analyse, dès lors qu'ils ouvrent le bec,
dès qu'ils ouvrent le bec, mais faut-il encore qu'ils en tirent des conséquences lorsqu'ils la rencontrent ?
Là, d'ailleurs, c'est ce qui figure en exergue là, dans ton bouquin. C'est une phrase de Lacan, de l'envers de la psychanalyse. Dès lors que l'être humain est parlant, fichu, c'en est fini de ce parfait harmonieux de la copulation.
Ça n'empêche pas chacun d'y croire dans sa fiction.
Voilà. Il me semble que ce sont des rêveurs, finalement.
Ce sont des rêveurs à leur insu, puisque certains essayent de se présenter plutôt comme des pragmatiques, notamment dans certains choix qu'ils appellent... il ne faudrait pas le généraliser. Que certains appellent les plans Q, c'est-à-dire où, effectivement, il y aurait du sexe sans le moindre affect et sans le moindre amour. Effectivement, bon... Il y a cette dimension. Mais donc, c'était d'interroger comment la rencontre pour eux ensuite va opérer. Et pour ça, c'est vrai. Deuxième question. Je n'ai pas privilégié les formations de l'inconscient. D'abord parce que ce sont des cures, pour la plupart, qui sont assez longues, 10 ans, 15 ans, etc. Qu'il fallait les résumer, les resserrer, plus que résumer du reste, en une quinzaine de pages, avec un objet précis, c'était de démontrer, c'est un seul point d'attaque. Il pourrait être construit autrement, il pourrait être construit par le biais de rêves, par le biais de lapsus, par le biais d'associations.
Il y a un pari. Une démonstration.
La démonstration par rapport au cas, c'est de prendre les remarques de Lacan à la fin du séminaire 6 et à la fin de son enseignement et de voir en quoi ils inventent leur vie, même très modestement. Ce ne sont pas des cas exceptionnels. Il n'y a pas de grands écrivains, rien de tout ça. Vous n'avez pas une œuvre derrière qui témoignerait par ce biais-là que vraiment c'est exceptionnel. Sauf Genet, mais on ne le considère pas comme un cas.
On va en parler tout à l'heure.
On parlera après. Donc, effectivement, ils trouvent des bricolages, le terme, vous le savez, à ses lettres noblesse chez Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, c'est-à-dire ils trouvent des bricolages pour faire avec leur choix de jouissance autrement que d'être, au fond, dans une position de mort, ce qu'ils étaient dans leur vie.
Ça, parce que c'est le mariage pour tous, en effet, mais c'est un mariage avec la mort, pour beaucoup.
Voilà, ils ne sont pas les seuls. Les homosexuels ont leur spécialité aussi dans ce jeu avec la mort. C'est le désespoir souvent de leur compagne. Bon, qui s'en accommode, plus ou moins. Bon, mais donc, il y a cette dimension, effectivement, d'invention, et pour ça, j'ai voulu insister sur ce mixte, sur le fantasme, qui noue à la fois des signifiants et des bouts de jouissance, et de voir comment on pouvait passer du fantasme à l'élaboration, même très modestement, d'un saint homme. C'est là le point de démonstration. Oui. Et cette construction, ce passage, comment opère-t-il ? Est-ce qu'il se fait au nom du Père, c'est-à-dire au fond, au nom de Dieu, puisque, vous savez, les phrases de Lacan, Freud sauve le Père, c'est-à-dire au fond, sauve Dieu. Ou bien, il se débrouille autrement. Donc il me fallait, en resserrant la démonstration, insister beaucoup plus sur ce point que sur d'autres. Donc ce ne sont pas des résumés de cure, ça n'a pas du tout cette valeur. C'est de montrer un point limité, partiel par rapport au travail qu'ils ont pu faire, mais qui pouvait avoir une démonstration par rapport à l'idée de l'invention, de la contingence, et que s'il n'y a pas des opérateurs, l'Œdipe en étant un, le nom du Père en étant un autre, pour faire qu'au fond tout soit déjà là, quelles conséquences sont tirées de ce qui bricole autant de l'autre qui n'existe pas et de l'inexistence du rapport sexuel.
C'est-à-dire que Lacan se lit. Jacques-Alain Miller n'a pas hésité à intituler un des chapitres de la fin du séminaire 6, Éloge de la perfection.
Voilà.
C'est-à-dire que, voilà, dans la mesure où ces gens-là, tout de même, arrivent à se passer du père pour construire un mode de vie, hein, sans passer, mais alors ce qui me frappe tout de même, c'est qu'ils ne cessent d'en parler du père.
Oui.
Mais il me semble que la thèse que tu défends, enfin, semble-t-il, c'est qu'il y aurait, semble-t-il, chez ces sujets, plutôt que d'autres, mais ce sont des sujets modernes, tout compte fait.
Oui, oui.
Dans la mesure où finalement, nous ne sommes plus à l'âge du père, comme tu reprends une phrase de Jacques-Alain Miller. Ce qui est frappant, c'est que, comment dirais-je, ils arrivent à trouver des solutions dont ils ne sont pas forcément satisfaits.
Hein. Absolument.
Ce sont des bricolages quand même. Absolument. qui n'arrivent pas à les satisfaire. Alors tu mets l'accent, il me semble que ça c'est tout à fait essentiel, sur le fait que quand même, ce qui serait un petit peu particulier, c'est ces sujets, c'est l'importance démesurée qu'ils accordent aux signes plutôt qu'aux signifiants, ne serait-ce que dans leurs rencontres. Parce qu'ils font des rencontres, ils les multiplient même, mais ce sont des rencontres qui nient la rencontre. Il y a une espèce de paradoxe là.
Alors il y a deux choses. C'est que le livre donc a ce parti pris d'insister plutôt sur les bricolages de jouissance. Ça limite le livre, mais ça aussi lui permet d'affirmer la démonstration et de voir comment du fantasme, il y a la construction d'un saint homme, et j'insiste, au mieux ce sont des solutions élégantes pour chacun des sujets en question, mais avec des effets thérapeutiques nets. C'est de voir comment il trouve, et là je crois que ça a un intérêt qui va, cette clinique-là, au-delà des homo-analysants. Ça concerne tout un chacun. c'est-à-dire comment ils peuvent trouver des bricolages. Et c'est des bricolages limités qu'eux-mêmes reconnaissent comme limités. Donc chaque fois, je me suis demandé comment ils peuvent au moins produire un élément qui ait une valeur de démonstration.
Mais c'est ce qu'ils nous enseignent.
Voilà, c'est ça, ce que je voulais faire. Qui ait une valeur de démonstration qu'eux-mêmes reconnaissent dans sa valeur de démonstration, passant l'adresse à l'analyste qui fait son job pour qu'ils assurent leur démonstration. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas du tout une solution par le DIP ou par le nom du père, alors même, évidemment, mais qui ne cessent de parler de leur papa, de leur maman, de ceci et de cela, et à juste titre. C'est vraiment la notion d'invention, la notion de contingence, la notion de bout de réel, etc. Enfin, ces termes-là ne sont pas tous synonymes, mais ils vont vers la même direction, c'est-à-dire de comment ils se débrouillent chacun avec l'incurable du réel. Alors certains pourront se dire, oh mais ils ont trouvé que ça, mais oui, mais on n'est pas là pour apporter un jugement par rapport à une norme. On est là pour se dire, ils bricolent chacun d'une certaine façon avec l'incurable du réel, et ça, il faut avoir des outils, la fin de l'enseignement de Lacan, pour au moins les repérer. Alors le deuxième point qu'amène Alain, c'est à propos du signe. C'est pas valable pour tous, mais au moins chez deux ou trois patients dont il est question, c'est une modalité particulière et qui n'est pas simplement avec sa valeur sociale du temps où l'homosexualité ne devait pas être repérée.
Le temps de Proust, etc.
Voilà, c'est ça.
Grande importance, cette question du signe.
Voilà. C'est vrai, parce que je ne veux pas le généraliser, mais enfin, les hétérosexuels sont un peu bêtes pour se repérer dans ce qu'il en est du moment de la rencontre.
Oui, ils font appel.
Ils font appel aux voisins. Elle m'a regardé, est-ce que tu penses que... Mais oui, vas-y, oh non, tu sais, elle est... Tout le monde a connu ça, ou bien... Il y a vraiment... Voilà, il y a ces paroles qui s'échangent. Là, dans certains cas, mais pas dans tous les cas, c'est pas généralisable. Sauf peut-être dans le premier cas, Max, où effectivement, le jour où ça change, ça produit un véritable cataclysme pour lui. Et d'une certaine façon, très peu de temps après, il finira son analyse et on ne peut pas l'interpréter comme un départ précipité. C'est ça l'intérêt. Bon, c'est quoi le signe? C'est que c'est vraiment insignifiant dont on déconnecte SE1 de SE2 et qu'on héraldise dans sa solitude et qui, en quelque sorte, fait eureka subjectif. Alors que, évidemment, le signifiant est toujours équivoque, on ne sait pas, il renvoie à d'autres, sur les chaînes signifiantes.
Est-ce que je peux t'interrompre là-dessus? Parce que, évidemment, c'est le... Alors, on va dire que, finalement, on pourrait presque pratiquer une analogie, mais c'est faux. Évidemment, entre ce qui se passe à la fin d'une analyse, où on isole le signifiant comme ça, où on se débarrasse, enfin, on a repéré tous les... signifiant clé de son histoire, qu'elle était attachée à son histoire. On s'est défait des signifiants de son identification, les identifications successives, etc. Puis on aboutit finalement à isoler un signifiant, qui condense au fond, qui est un condensateur de jouissance. Alors, est-ce qu'on pourrait dire finalement que les homosexuels ont... on réussit là où les hétérosexuels ont tant de mal à...
Non, je crois pas qu'on puisse dire ça parce que... C'est ça, c'est là. C'est avocat du diable, pas
je,
du tout.
Je
parce
crois
que, ça,
que là, il faut faire une différence.
Absolument. Le signe n'a absolument pas le même statut puisque justement, enfin, Alain ou d'autres pourraient dire des choses bien plus intéressantes que je vais dire sur ce point-là. C'est vrai que la fin d'une analyse, c'est la nomination d'un point de réel où effectivement, les jeux signifiants avec l'amour de l'inconscient, quand même, c'est un petit peu tassé, etc. Alors que là, c'est vraiment une façon de réifier et de fétichiser un signe qui, en quelque sorte, ouais, fait aucune équivoque en ceci qu'il serait... le point même visuel où le rapport sexuel enfin est possible. Alors qu'à la fin de l'analyse, le signifiant, maître ou autre, isolé, vient nommer justement le bout de réel qui procède du non-rapport. C'est vraiment une logique radicalement différente, puisque dans un cas, c'est un travail de dépiotage, la fin de l'analyse, alors que là, c'est vraiment le voile qui recouvre.
C'est ça, le signe est univoque, alors voilà. Que justement, à la fin d'une analyse, il est équivoque.
Voilà, et le signe univoque, ça veut dire que c'est un eureka subjectif, comme s'il était le signe qu'enfin le rapport sexuel était possible. Et c'est ce qu'on voit chez ça de façon admirable, notamment dans la Société des Amis du Crime. Il faudrait être un peu borné pour s'imaginer qu'on demande à l'autre « est-ce que tu en fais partie ?»
Pourquoi tu cites Klossowski aussi
dans, voilà, dans la c'est même... ça qui a bien analysé ça chez Sade, et notamment le signe qui ouvre, le signe qui fait signal et qui ouvre au geste, qui n'est pas un acte. C'est le geste du grand libertin, où effectivement on se reconnaît par le geste ou par le petit signe, mais absolument pas par le signifiant qui quand même est éminemment trompeur. Après, si l'autre me dit que oui, qu'il fait partie de la Société des Amis du Crime et qu'il n'en fasse pas partie, c'est ma tête que l'on coupe. Bon. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'à certains moments, pas pour tous, pas généralisable, ni d'un cas à l'autre, ni même à l'intérieur d'une vie pour certains patients, mais il y a ce type on ne peut pas employer le terme de rencontre, mais le type de pratique sexuelle, où effectivement aucun mot n'est échangé, aucune particularité du partenaire n'est jamais dite. Ce sont les saunas spécialisés, les aires d'autoroute, les plages le matin, etc. Bon, chacun peut se douter de comment ça fonctionne. Le cinéma, la littérature en parle. Effectivement, là, aucun mot n'est échangé. Et la règle, parce qu'il y a un contrat, c'est que même les prénoms ne sont pas échangés. Et un patient m'explique qu'un jour dans un sauna, à la fin d'une pratique sexuelle à deux, il lui laisse un petit papier avec son numéro de téléphone. Et il m'explique, c'est le patient homosexuel le plus à la page que j'ai, qui donc, repérant que c'est quelque chose que j'ignore évidemment, contextualise ses propos pour l'analyste sans surenchère. Donc il me dit, ça c'est pour les homosexuels, hommes seulement. Donc il est très pratique pour que je me repère parfois dans certaines pratiques qui, dites trop vite, ne permettent pas d'avoir le contexte. Et effectivement, il m'a dit, oh oui, j'ai trouvé ça inadéquat, mais c'était un jeune, il n'avait pas encore l'habitude. C'est-à-dire ce moment où le signifiant pourrait advenir, ouvrant au champ de la... De la rencontre,
il c'est-à-dire au fond, rompu au code de la...
le code, c'est il n'y a que du nécessaire, et effectivement, le signe fait signal ouvrant au geste, et ça marche.
Donc on peut quand même dire qu'il y a un trait de perversion accusé.
Trait de perversion accusé.
Alors justement, tu t'emploies à bien distinguer tout de même chez ces sujets que pour certains ont une pente plutôt la névrose obsessionnelle.
C'est tous, à la limite, c'est tous névrosés obsessionnels, d'une certaine façon. Voilà. D'une certaine façon.
Alors, tu t'appliques justement à démontrer que, précisément, la raison pour laquelle Lacan a distingué très sérieusement et sévèrement même ce qu'il a appelé la perversion, trait d'union, de la perversion. Est-ce que tu pourras en dire un mot
là,
à
c'est
la lumière de ce que voilà. Que tu as pu recueillir ces sujets.
Là, c'est un élément déterminant. Quand Lacan déconstruit le syntagme perversion en un seul mot pour écrire père-version.
Il y a du père.
Chez tous, incessamment. Et donc, cette père-version, Miller commande ça remarquablement en disant « c'est un vice de Lacan pour démontrer que l'Œdipe lui-même, dont on faisait un rempart contre la perversion, l'Œdipe lui-même est une perversion, au sens d'une fiction pour se débrouiller avec le fait que la chose sexuelle, c'est jamais ça. » Et il dit qu'au fond, c'est une version vers le père, vous avez tous en mémoire, ou certains tout au moins, l'idée d'une adresse au père, etc. Et surtout, il nous dit, Miller dans son commentaire, que chez Lacan, on passe du nom du père ou du père en général, l'universel du père, au particulier de un père, c'est-à-dire le père de chacun d'entre nous. Comment il a construit son désir ou pas et dont nous sommes une conséquence réelle et langagière. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'à partir du moment où le père est pluralisé, la perversion vole en éclat comme catégorie, d'où la difficulté parfois, c'est qu'on est bien obligé de
repérer. Quand même, tu parles d'un cas
voilà, de perversion. En termes freudiens, c'est du un cas. Pervers freudien. C'est même un pervers lacanien au sens du séminaire de l'angoisse. C'est même un pervers au sens du séminaire d'un autre à l'autre.
Tu pourrais dire deux mots quand même de ce cas.
C'est un sujet que j'ai reçu il y a plus de 20 ans, trois fois. J'aurais dû l'oublier, évidemment. Et je n'avais pris aucune note. Et lorsque j'ai revenu pour le livre, parce que madame m'avait dit, il faudrait qu'il y ait un cas qui objecte à ce que vous dites précédemment. C'est un sujet qui n'est pas devenu homo-analysant et dont je n'ai jamais su, en trois séances, pourquoi il était venu, quant à sa souffrance subjective ou à sa demande, mais d'emblée, il a mis en place un dispositif pour diviser l'analyse. Je vais vous le résumer, mais je crois que ça a son intérêt. Il était en enseignant, donc il ne me règle pas la première séance en me disant qu'il n'avait pas d'argent, mais que, etc. Et je lui avais dit... Vous allez voir que la phrase sur le papier paraît tout à fait adéquate, mais en fait va s'avérer absolument vaine. Et je lui ai donc dit, d'un ton un peu froid et distant, je vous laisse trouver de l'argent pour la prochaine fois. La deuxième fois, il vient. Et il me dit, victorieux, j'ai trouvé la solution pour vous payer, j'ai rencontré quelqu'un. Non, je vais être assez elliptique, mais vous allez saisir. J'ai rencontré quelqu'un dans un sauna qui m'a proposé de me prostituer dans une camionnette sur une route près d'un complexe industriel. Pour des travailleurs. Vous voyez, il y a l'accumulation métonymique pour des travailleurs immigrés qui y exercent. Explique tout ça, que vraiment ça allait être la solution la plus formidable pour payer l'analyse. Et j'ai eu à la fin la phrase qui va vous faire sourire. Sur le papier, elle a sa valeur. Mais vous allez voir que dans le contexte, elle n'a pas eu d'effet. Et je lui ai dit, bon, je vous en demande pas tant. Bon. Il y a eu une troisième séance et j'ai été roulé dans la farine. Donc, il en a payé deux sur trois, me disant qu'il allait venir une quatrième. Mais au-delà de l'anecdote, vous voyez que c'est un dispositif où, malgré mes efforts, malgré quand même, on ne va pas me la faire. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Bon, etc. Rouler dans la farine, ce qui est très intéressant, c'est ça qu'au fond, il n'est pas rentré parce qu'il a visé un point. Après tout, c'est vrai, ça me revient toujours. Est-ce que chacun peut dire comme ça dans son manuel intérieur? Comment on fait si quelqu'un vous explique qu'il va payer avec de l'argent obtenu dans ces conditions? Vous allez dire, l'argent n'a pas d'odeur, mais oui, monsieur. Ou bien vous allez dire, mais il n'en est pas question, faire un peu le moralisateur. Allons, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Travaillez donc. Enfin, bon. Et bien, vous voyez que, au-delà de ma petite personne, le cas est construit absolument comme ça à chaque séance. Donc, si on me demande, mais son homosexualité, pourquoi était-il venu? Ah ben, j'en sais rien. Et je ne suis pas arrivé à le savoir.
Ben oui, tant qu'il n'a pas parlé, tant qu'il n'a pas commencé à
parler. Ça vérifiait presque la rubrique, mais qui n'est pas vraie, au fond, mais qui est amusante. Les pervers en analyse, s'il part, c'est donc qu'il l'était, s'il reste, c'est qu'il ne l'était pas.
Ça, c'est moi qui sortais ça.
Voilà, tu sortais ça à une époque. Bon, ouais. C'est pas plus compliqué, parce que parfois, ça marche pas tout à fait comme ça. Ouais. Donc, je suis obligé d'avoir de temps en temps des cliniques freudiennes pour se repérer, mais qui sont aussi leur légitimité chez Lacan. Mais néanmoins, j'ai surtout insisté à propos des homo-analysants sur plutôt la modalité de la perversion, c'est-à-dire un père pluralisé qui leur sert plus comme opérateur de bricolage, donc le père pris au singulier, plutôt qu'un traitement par l'universel, c'est-à-dire par au nom du père, expliquez-moi comment vous allez sortir de tout ça.
Alors... Page 141, je tombe dessus, là, tout à fait pas. Ça, c'est pas du tout prémédité de ma part. Tu dis, ce que veut une femme n'est pas du tout interprétable par l'Édipe. Bon, on le saisit. On saisit. Freud en avait eu l'intuition, le continent noir de la féminité, etc. Freud le savait, tu dis. Bon. Mais ce fut pour lui une butée irrésolue. Mais ce que veut un homme, est-ce que ça n'est pas... Au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas en dire autant? Et est-ce que... Alors, à ce moment-là, comment tu donneras un sens à cette... À ce que je viens de dire, ce que veut un homme n'est pas interprétable par le livre.
Alors, je crois qu'il y a... Je te réponds comme je peux. Je crois que quand on dit femme dans les deux cas et homme dans les deux cas, ils n'ont pas le même statut épistémique.
Sur la question de la sexualité.
Voilà. C'est-à-dire que la question de Lacan, qui ne résonne plus en termes, notamment le séminaire encore, en termes d'identification et de soumission aux signifiants patriarcaux, qui est la grande découverte, certes géniale, de Freud, évidemment, qui casse d'une certaine façon la nature, la loi naturelle, et même la phrase qu'on lui a prêtée, l'anatomie, c'est le destin. Alors l'identification, Lacan y répond par la sexuation. Et autrement dit, la sexuation ne se confond plus avec l'anatomie. Donc, par exemple, on dit Saint Jean de la Croix est un homme, qu'en est-il de son désir d'homme? Eh bien, c'est Saint Jean de la Croix, en ceci que c'est un mystique du côté du Patou, il est aimanté par cette question de l'au-delà de l'Œdipe. Donc, quand on dit homme dans les deux cas, en fait, ils n'ont pas le même statut épistémique. Dans un cas, on parle d'un homme du point de vue à la fois de l'anatomie et d'une identification, mais ça n'empêche pas qu'il rencontre ce point du Patou. Le Patou n'est pas l'apanage, évidemment, d'un des deux côtés, puisque ça ne serait plus la sexuation, mais ça serait une nouvelle homme et femme, un nouveau fil et l'aiguille, comme on disait. Donc c'est ça que je veux dire, que la question se pose, d'autant plus que Lacan, qui ne raisonnait pas dans les termes du Patou, dans le séminaire 6, parlait du grain de poésie. Et que là, au fond, le grain de poésie, il devient synonyme de la rencontre. Voilà. Si la rencontre, elle n'est plus formatée, elle n'est plus universelle, quelque part, elle affronte chacun au Patou.
C'est ça, donc à la contingence.
À la contingence.
Dont le phallus est le signifiant.
Dont le phallus est à la fois le signifiant et le voile, puisque c'est une clinique au-delà du phallus.
C'est ça. Mais alors, on peut te rétorquer, finalement, là je me fais encore l'avocat du diable, on peut te rétorquer que finalement, chez les homosexuels, chez certains homosexuels en tout cas, parce que je ne dis pas chez les homosexuels, mais des homosexuels, l'article indéfini doit être maintenu. Tout de même, on observe dans la littérature, aussi bien comme par exemple chez Genet, mais si on y viendra, chez Genet, une sorte de culte du phallus. Alors,
bien
distinguer, me semble-t-il, le phallus tel que le phallus imaginaire, comme ça. Il semble qu'il y a une espèce de souffrance phallique chez les sujets dont tu parles.
Oui. Il y a même une souffrance à laquelle on peut donner son algorithme. C'est
sous l'apparence d'un culte.
Oui, c'est petit-fils héros, c'est-à-dire le phallus mort, qui n'est pas grand-fils héros de la forclusion. Et Jacques-Alain Miller l'utilise à propos de Gide. Parce qu'au fond, dans la question préliminaire, fille a une drôle de particularité, c'est un des termes du triangle, mais il dit que c'est là où le sujet s'identifie à son être de vivant. Et que donc, pour repérer la mortification dont il est question, c'est ce phallus-là imaginaire qui est mortifié comme vivant. D'où l'intérêt de l'affaire, qui se retrouve bien sûr en général dans la névrose obsessionnelle, mais qui là me semblait très intéressant de particulariser au cas par cas comment effectivement, pour un même des sujets, il est un enfant mort attendant l'immortalité. Et tu m'avais fait remarquer que dans un texte de Gide qui s'appelle Urien, c'est ça, il y avait au fond ce type de fantasme qu'on pouvait isoler.
Désir congelé.
Donc, d'une certaine façon, leur désir est congelé. Alors évidemment, tout ça est beaucoup plus complexe, c'est le livre en rapporte, c'est le rapport à la mer, etc. Mais ça, on pourrait pas dire, c'est une clinique à laquelle nous sommes beaucoup plus habitués. Clinique freudienne, clinique du Lacan structuraliste. Ça me paraissait important de travailler plus au niveau des concepts, faire voler un éclat le nom du père en le pluralisant. Mais il y a toujours effectivement l'importance de la mère, de l'identification, pour dans certains cas d'homosexualité, de retrouver dans le jeune homme qu'ils choisissent, voire dans les cas de pédophilie, le jeune garçon qu'ils choisissent, retrouver le garçon qu'ils ont été comme phallus incarné sous le regard de la mère. Clinique plus, auquel on est plus habitué, mais qui me semblait, j'y fais référence, mais beaucoup moins démonstratif par rapport à l'enjeu du texte, où il ne fallait jamais oublier les concepts d'accord, mais qu'est-ce qui va nous permettre de faire comme action politique et par rapport à ce qu'il se dit et ce qu'on porte.
Alors, quelle est l'incidence là, les formations de l'inconscient, en effet, tu as opté, il y en a eu certainement.
Mais elles y sont en permanence.
C'est un style de vie qui témoigne de ces formations là dont tu ne parles pas, mais qui quand même existent. Une autre chose, je voulais savoir, l'analyste. Dans le transfert, comme ça, quelle est sa position et comme, dans quelle position te mets-tu pas sur toi ? Tu es un homme.
Donc il faudrait le particulariser au cas par cas.
Oui.
Et ce n'est pas pour ne pas répondre à la question que je le présente, mais je crois que j'ai soutenu cette position de comment ils allaient pouvoir bricoler une solution. Par exemple, un des patients, le premier, Max, est venu me voir à peu près pendant 11 ans, et la scène qui fait basculer sa position subjective, qui avant n'a absolument pas bougé, elle est dans les 6 derniers mois. Alors qu'est-ce qu'il m'a raconté pendant plus de 10 ans ? Une chose très simple, il se demandait pourquoi il était seul, mais non pas sous la rubrique « je suis tout seul ou toute seule », qui fait parfois le désespoir des hommes, mais souvent des femmes. Mais plutôt, il se demandait pourquoi il était, au fond, une machine célibataire, voire une machine thermodynamique régulée à la Denis Papin. Et il se disait, mais comment c'est possible, parce qu'avec un désir de savoir méthodique, non pas je veux rencontrer quelqu'un, mais comment se fait-il qu'on puisse être une machine célibataire, qui, vous savez, une phrase de Carouge à propos des machines surréalistes. Bon, eh bien, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai soutenu cette question sans me préoccuper pendant longtemps de « mais qu'est-ce que ça va produire comme effet ?»« Mais c'est pas ça, mais il faut... » Et voilà.
Jusqu'à ce que cette machine rencontre un grain, enfin quelque chose qui vient s'opposer...
Il rencontre une parole, parce qu'il n'avait que des relations avec des signes. Lui-même avait choisi sa femme sur un signe. C'est un homme qui a vécu à peu près une quinzaine d'années avec sa femme, dont il a eu 2 enfants, et la seule chose qu'il ait pu me dire, c'est quand je lui ai dit « pourquoi elle ?» Là, ces questions qu'on me pose. Le partenaire, et puis on demande, et le névrosé est intarissable. Bon. Eh bien, il m'a répondu, je l'ai rencontrée sur une plage, elle avait un bikini en tissu Vichy. Alors, j'ai questionné, j'ai fait le job, quoi. Ce n'est jamais allé plus loin, je vais me dire, ah ben écoutez, ça va pas vraiment bien loin, alors ce monsieur avec vous. Mais pas du tout, c'est que je crois qu'il fallait sortir de l'a priori, mais vous savez, le partenaire de 15 ans avec qui on a des enfants, mais on a plein de choses à en dire. Mais pas du tout, là, dans ce cas-là, c'était tissu Vichy, ça avait fait Eureka, tilt, point à la ligne. Et il continuait à s'interroger, au fond, comment est-il lui-même vivant dans un monde de signes et absolument célibataire. Eh bien, on pourrait presque dire que le partenaire du célibataire, on fait l'hypothèse aujourd'hui, c'est toujours avec le signe. On ne peut pas être célibataire avec le signifiant. Il vous faut le signe pour être un célibataire absolu. Donc, pas un célibataire qui pleure sur son sort. Donc, personne veut de moi.
Rien que le fait de soutenir sa question,
oui,
lui permet précisément, eh bien, d'accéder précisément à la dimension du signifiant.
Qui ne lui plaît pas du tout, parce que l'autre lui parle, qui le dérange, l'interprète, c'est la fonction du signifiant, alors que le signe ne l'interprète pas, puisque c'est lui qui immédiatement le reconnaît comme tel, le temps de fulguration se réduit à zéro, c'est comme dans le temps logique.
Donc l'analyste est là, au fond, pour, en effet, permettre à ces sujets de soutenir leurs questions, mais en même temps de la fragiliser, enfin de fragiliser leur mode de réponse. Et puis de mettre l'accent sur, par exemple, quand ce type-là, quand ce Max-là, rencontre un partenaire qui lui dit « Mais au fond, toi, tu es un actif, alors qu'il se pensait toujours passif. » Il y a là quelque chose, tu dis, qui fait un événement de corps.
Oui, ça lui produit un bouleversement, et on voit quand même que l'effet du signifiant est d'affecter le corps, et donc il faut interpréter qu'avec un monde de signes, il parvenait dans une sorte de fiction à ne jamais être affecté par rien. Et du reste, c'est ce patient, la première fois qu'il m'a serré la main, il m'a fait très mal, parce que c'était une véritable pince, donc je pensais que c'était peut-être, j'avais mal mis ma main, enfin vous savez, les névrosés pensent bêtement, je vous l'accorde. Enfin, il faut une analyse pour ça. Enfin, bon, ils sont vraiment couillots. Hein. Bon. Mais, et ensuite, la deuxième fois, il m'a fait très mal. Je lui ai dit, écoute, non, vous ne me serrez plus la main comme ça, parce que vous voyez, ça fait mal. Il m'a dit, ah, bon, très bien. Il a été très, très gentil. Ça a inauguré... C'était bon signe pour le transfert, puisque quels que soient les moments de la cure, il ne m'a jamais plus serré avec sa pince.
Alors maintenant, bon, je pense que là, ça mériterait... beaucoup plus de temps, mais pourquoi tu introduis quelqu'un qui n'est pas, à proprement parler, un homo-analysant, mais qui tout de même, d'une certaine façon, a démantelé lui aussi ses défenses, à savoir Genet. Pourquoi tu introduis Genet dans ce livre ?
Alors, j'introduis Genet d'abord parce que Je connais un peu l'œuvre et je l'apprécie, non sans ambivalence, mais bon, disons je l'apprécie, contentons-nous de cette formule. Et puis surtout parce que l'homosexualité de Genet peut dans certains lieux, dans certains mouvements, être récupérée comme la forme accomplie d'une nouvelle morale. Et un certain Didier Ribon, que nous avions invité à l'école pour qu'il nous crache dessus, il avait fait pendant une heure et demie, je présidais la rencontre, je me rappelle jusqu'à ce qu'il avait fallu subir. S'il y avait eu le repas, c'était pire. Bon. Il n'en demeure pas moins que... c'était pire parce qu'il disait que l'inconscient de Jacques Lacan était structuré de façon homophobe. Et ensuite, au repas, il l'a répété devant sa fille. Donc, c'était un peu pénible jusqu'à ce que... Enfin, bon. Donc, ce qu'on essayait de faire, c'est qu'il avait écrit un livre qui s'appelait « Pour une morale du minoritaire ». Et dans certains milieux, justement... Ça apparaît comme une référence en matière d'homosexualité sur laquelle on ne dit rien, y compris chez ces spécialistes qui sont d'excellents critiques, qui analysent tout ça, et qui sont impeccables. Mais par exemple, quand j'ai écrit cela, parce que je vais publier un article dans l'Erne consacré à Genet, qui est organisé par notre ami Alain et moi, qui s'appelle Albert Dichy, l'éditeur dans la Pléiade de Genet, il m'a dit « Ah bon, j'ai lu cette phrase 50 fois, qu'il connaissait, parce que Genet témoigne de son homosexualité de façon très précise. » Il m'a dit « Je n'avais jamais pensé qu'on puisse lui accorder cette importance. » Et pourtant, Dichy est un excellent connaisseur. Marty aussi, qui a écrit un très beau livre sur l'antisémitisme de Genet, et qui est un collègue, bon, m'a dit la même chose. Et au fond, c'est quoi la thèse ? C'est que Genet parle d'une expérience qui lui arrive dans les années 50. Est-ce une pure fiction de grand écrivain ? Ou bien est-ce qu'il a effectivement rencontré un monsieur dans un train près de Salon, près de Marseille, etc., dans un compartiment de troisième classe, peu importe. Puis de toute façon, les faits eux-mêmes sont des fictions quand on les construit. Eh bien, il fait une expérience où il rencontre un petit vieux, je résume à sa trame, et on aurait pu penser que là, c'était le dispositif pour la mise en place, au fond, de l'érotisme de Genet, qui est un érotisme masochiste. C'était une reproduction de ce qui s'était passé à Barcelone dans les années 30, le commissaire qui met sur la table, quand il a été attrapé, le tube de vaseline, qui est quand même l'index de la honte. Eh bien, pas du tout. L'expérience de Genet, qui en parle une première fois dans l'atelier d'Alberto Giacometti et ensuite dans un second texte, je me rappelle qu'il y a des années, Alain m'avait fait connaître ce qui restait d'un Rembrandt découpé en petits morceaux et jeté aux chiottes, etc. Il en reparle à une deuxième occasion et il dit que là, il rencontre dans un train un vieillard, un arabe, et qu'au lieu que ce soit le dispositif qu'on attend du Genet pur sucre, se faire la chose de l'autre, devenir un déchet sous la voix de l'autre qui ordonne, pas du tout. il fait l'expérience que chaque homme en vaut un autre. Et il y a un bouleversement subjectif dont il témoigne admirablement dans le texte d'un Rembrandt, etc., à savoir que le culte de l'image phallique tombe. L'érotisme est délogé. Il dit, pour moi, l'érotisme avait la forme d'un sexe turgescent, brillant, etc., que vous voyez décrit à plus soif dans ses saints romans écrits entre 42 et 47. Là, l'expérience a lieu en 53. Eh bien, ça produit un effet subjectif tel pour Genet que son œuvre ne sera plus la même. Il n'écrira plus des textes avec le lyrisme baroque au niveau du style d'écriture, et en même temps, les scènes homosexuelles aussi présentes, y compris dans ses premiers romans, ses premières pièces, comme par exemple Haute Surveillance, ça ne sera absolument plus présent, et ça sera les trois grandes pièces, Le Balcon, Les Nègres, et bien évidemment son chef-d'œuvre, Les Paravents, où c'est tout à fait, comme disent les spécialistes de littérature, une autre thématique à l'œuvre. Et pour sa vie psychique, ça sera un moment, les commentateurs se débrouillent comme ils peuvent, le grand effondrement subjectif, il n'écrit plus, il a des mots extrêmement durs sur son homosexualité, où il dit, il parle comme à l'époque, c'est-à-dire les pédérastes, et Sartre, quand il écrit sur Genet, il dit jamais homosexuel, il dit pédéraste, on peut plus employer ce terme aujourd'hui, évidemment, le pédéraste, dit Genet, contamine par sa pédérastie la langue qu'il utilise. Et enfin, il aura une tentative de suicide à Domodossola, etc., en Italie. Eh bien, à partir de là, on ne comprenait rien à cette histoire. Puisqu'au fond, Genet perd ses caractéristiques de dandy, d'esthète, etc. Il a même écrit ce Léonore fini. Vous voyez les petits chats, vous voyez sa position subjective en miroir. Eh bien, c'est un autre Genet qui se définit lui-même comme un clochard supérieur. Son homosexualité ne bougera pas. Il sera toujours homosexuel. Absolument. Mais son œuvre et sa position subjective changent. Et j'ai pensé qu'en alimentant cela, on voyait qu'on sortait au fond de l'imagerie qu'on peut faire de l'homosexualité de Genet, à la revendiquer comme une expérience unique, alors qu'en fait, c'est parce qu'une certaine homosexualité chez Genet est tombée avec l'érotisme associé, qu'effectivement sa vie a été autre, et que son œuvre a pris une autre tournure, comme on dit, plus universel. Vous avez les textes d'Alain qui a écrit là-dessus, qui sont très clairs et qui le démontrent admirablement. Donc je voulais reprendre cet élément-là, voir comment il le construisait. Je l'ai fait un peu longuement, mais je trouve que c'était intéressant, parce que ça n'a jamais été écrit. C'est rare d'écrire quelque chose d'un tout petit peu nouveau sur Genet, qui est quand même connu des grands intellectuels, et de voir que là, on déconstruisait au fond une version fleur bleue de l'affaire, et que là, nous avions besoin justement de pluraliser le père pour en tirer quelques conséquences.
Ce n'est pas d'ailleurs pour déconsidérer le premier Genet,
pas du tout.
Mais c'est vrai qu'il y a une crise subjective, on pourrait appeler ça la passe de Genet d'une certaine façon.
Alors que le premier Genet ne cesse de miser sur le père. Et Dieu, et c'est explicite, la montée à l'échafaud, c'est digne d'une montée au Carmel, d'une montée dans l'Assomption signifiante, où on va, en quelque sorte, la lumière divine va emporter cela, y compris dans une dimension un peu amusante.
Il y a quelque chose que tu développes, là, moi, qui m'a beaucoup intéressé, qui me paraît tout à fait neuf, la question de la mort chez Genet. Est-ce que tu appelles la mort, ce qu'il appelle lui-même, la mort d'avant la vie? Une mort active. Est-ce que tu pourrais préciser ce dont il s'agit?
Alors, très brièvement, évidemment, il y a deux morts dans les textes. La mort qui vient mettre un terme à la vie, et puis, de façon étonnante, il parle d'une mort d'avant la vie, et il parle même de la fonction de l'art, notamment chez Giacometti, comme adressée à ces morts d'avant la vie. Et quand on prend le texte, qu'on essaye de le déconnecter de, au fond, le champ sémantique mort, après la vie, perdre la vie, etc., qu'on essaye de ne plus être pris par ce champ sémantique, on obtient quelque chose d'incroyable. C'est que pour lui, cette mort d'avant la vie, c'est le point intime qu'on appelle chez nous de division subjective et que lui appelle la blessure secrète de chacun. Et autrement dit, cette blessure secrète, c'est ce à partir de quoi, au fond, on peut faire du neuf. Et que l'art n'a pas à s'adresser à ceux qui sont là, mais à viser ce point le plus intime de blessure où le plus singulier advient. Et c'est pour ça qu'à la fin, il inventera, il reprendra le mot urbanisme en disant qu'il conçoit une ville qui soit construite autour du cimetière, parce qu'en quelque sorte, là, on aurait en quelque sorte sous la main et matérialisé, certes, imaginairement comme les morts d'après la vie, mais surtout derrière eux, les morts d'avant la vie, puisque c'est cette flamme qui fait que, par exemple, Abdallah, son amant, peut resplendir sur le fil du funambule qu'il est devenu, et que la mort qui fera que peut-être il tombera et se tuera est très secondaire par rapport à que s'il est en contact avec ce plus intime de lui-même, alors effectivement il sera devenu autre. Et ça, c'est très précisément l'expérience qu'il fait dans le train près de Salon en 53.
C'est pas, c'est outrepasse.
Oui.
Elle a quelque chose qui est. Bon, ben, on ne peut que remercier.